Perfect Storm. J'essaye de prononcer le mot correctement, car en fait, c'est un mot en anglais. Perfect Storm. C'est les anglo-saxons qui appellent, avec ce mot, une configuration climatique avec des facteurs qui sont disparates mais concordants, qui se combinent pour produire une tempête énorme, une tempête d'une puissance inédite. Et donc, ils appellent ça la tempête parfaite. Quand il y a vraiment tous les éléments, pour une raison que personne ne connaît, qui se mettent ensemble et qui font que, eh bien, par exemple, on pourrait imaginer, on dit que la création de la Terre a été un phénomène comme ça, où tout est tombé en même temps, et voilà. Et ça a donné le monde dans lequel nous vivons. C'est aussi le titre d'une longue enquête de Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, professeur à l'Université de Tel Aviv, qui est en ligne avec nous, qui est historien. Bonsoir Eli.
Bonsoir.
Et merci d'être l'invité de Radio Shalom. Alors vous dites, voilà, la tempête parfaite, c'est quand il y a des strates comme ça, de problèmes qui se mettent ensemble au même moment. Et pourquoi ce mot vous intéresse? Parce que vous dites, c'est intéressant, mais Israël en ce moment est en pleine tempête parfaite. Tout se coordonne, tout arrive en même temps, tout éclate en même temps pour les Israéliens. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire par là que, comme dans une tempête parfaite climatique, quelque chose s'est construit. L'événement s'est construit assez rapidement, parfois, très rapidement même, parfois, dans le cas qui nous occupe, plus, dans un rythme plus lent, puisque nous sommes dans une tempête parfaite humaine et non pas climatique. Et pendant chaque étape de cet amoncellement de nuages, on gère, on croit pouvoir gérer, on essaie de vivre avec la réalité, en l'ignorant, en l'aménageant autant qu'on peut. Et puis brusquement, c'est le plus possible, parce que tous ces éléments disparates finissent par exploser, finissent par créer une espèce de chaîne chimique. Tenez, une autre image empruntée au monde physique. Et ça nous éclate au visage. Et nous sommes dedans, nous sommes vraiment dans l'œil du cyclone. Et du coup, la situation n'est plus gérable. Elle nous emporte comme des fétus de paille. Et on se demande où tout cela va nous mener, à quel moment et de quelle manière cette tempête va s'apaiser pour que nous puissions en sortir, sinon indemne, du moins vivant. Et nous en sommes là. Alors, dans ce papier que vous évoquez...
Dans Telos, vous avez publié ça. Mais peut-être pour que les auditeurs comprennent, je me permets évidemment pas du tout en parlant à votre place, mais de donner deux éléments pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Vous dites par exemple, bon, on n'a pas réglé le conflit avec les Palestiniens. Bon, ben voilà, maintenant, ça, c'est là et ça explose. Mais en même temps, on n'a pas réglé le problème avec le Liban. Donc c'est là et ça explose. Mais en même temps, on n'a pas réglé le problème avec les Iraniens, on n'a pas réglé le problème avec les Turcs. Les Russes n'ont pas réglé leur problème avec l'Occident et donc avec les Américains, donc ça nous retombe dessus. Les Chinois sont... Tout ça arrive en même temps. Et par ailleurs, au passage, je pense que vous n'êtes pas un fan, mais j'imagine comment Netanyahou doit essayer de gérer tout ça, ça ne doit pas être facile. Donc voilà, c'est ça, vous dites, on essaye de s'en sortir indemne. On peut s'en sortir indemne ou il y aura des dégâts?
Tout ça n'arrive pas en même temps, mais tout finit par s'imbriquer à un certain moment, par s'emboîter de façon parfaite. Et c'est ce qui donne la tempête actuelle. Alors certains problèmes viennent de loin. Le problème palestinien, il ne date pas d'hier. Hein, l'occupation a déjà 57 ans. Le problème libanais, il n'est pas de notre fait. Il est là. C'est un pays, non, c'est un non-État. À notre frontière, la révolution iranienne, c'est évidemment pas nous qui l'avons inventée, mais à chacun de ces pans de la situation, à chacun de ces éléments, nous avons apporté notre pierre. Et là-dedans, évidemment, le problème palestinien est essentiel. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé qu'on allait pouvoir gérer ce conflit. Ça s'appelait comme ça d'ailleurs, managing the conflict. Et puis on s'est aperçu, c'est que beaucoup d'entre vous le savez, on l'a assez dit à votre antenne d'ailleurs, que ce problème dans la durée n'était pas gérable, qu'il allait finir par exploser. Et c'est ce qui est arrivé le 7 octobre. Vous savez, l'illusion que les Palestiniens n'existaient plus sur la carte du Proche-Orient, ni sur la map monde, mais ils étaient, c'était un problème réglé en quelque sorte. On était passé à autre chose. Vous savez, moi, je rencontrais des responsables européens, américains, et ils disaient tous, bon, ok, c'est terminé, c'est plus personne n'en parle, c'est fini. On galopait vers un nouveau Proche-Orient avec des problèmes énormes.
Avec la paix, avec l'Arabie Saoudite. Mais d'ailleurs, il y avait des Israéliens qui disaient qu'ils ne voulaient plus faire l'armée, des jeunes de Tel Aviv, qui disaient, c'est fini les guerres. Il y avait... voilà, mais d'un autre côté, Eli Barnavi, franchement, les images qu'on a vues le 7 octobre, on avait déjà vu ça en Syrie. Hein. Pendant la guerre civile syrienne, des gens qui massacrent les gens avant de leur tirer une balle dans la tête alors qu'il suffirait de les tuer. Mais qui préfèrent finalement d'abord les massacrer et après les tuer. On avait vu ça pendant la guerre en Syrie. Oui, et moi, personnellement, je ne voudrais pas du tout faire croire que je pensais des choses auxquelles les autres ne pensaient pas. J'avais toujours cette angoisse. Je me disais, le jour où ils peuvent ouvrir la porte, ça va être horrible. Moi, je n'ai jamais vécu avec l'idée de « c'est derrière », jamais.
Oui, vous aviez raison. Vous et moi, nous n'étions pas les seuls. Mais il y avait un état d'esprit général, une espèce de consensus mou pour dire, bon... c'est fini. Moi, j'ai vu cela, puisque j'ai fait en novembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une tournée politique à Paris, en Europe, en disant à mes interlocuteurs, il faut faire quelque chose, parce que ça nous pendait, si vous voulez, cette histoire-là. Mais personne n'avait l'air de s'en inquiéter vraiment, c'était comme ça.
Même les Saoudiens, ils avaient dit, il faut que ça aille un peu mieux pour les Palestiniens, même les Saoudiens. Les Arabes.
Oui, mais ils étaient tout prêts à normaliser.
Mais ils pensaient que c'est fini. Ouais.
Et puis bon, maintenant ce n'est plus possible. Je veux dire, des massacres que vous mentionnez en Syrie ou ailleurs, c'est vieux comme le monde. Donc c'était la guerre civile. C'était, comment dire, en quelque sorte, passez-moi cette expression horrible, c'était dans l'ordre des choses. La guerre civile, c'est ça. Un régime comme celui d'Assad, c'est ça, c'était affreux, mais pas étonnant. Le 7 octobre, c'était étonnant. C'était quelque chose qui était sans précédent. C'était cette espèce d'énorme pogrom perpétré sur le territoire souverain d'Israël, c'est-à-dire sur le territoire d'un État qui a été créé précisément pour que ça n'arrive pas. Ça, c'était de l'ordre de l'inédit, si vous voulez. Et là, on s'est aperçu que effectivement on était dans une espèce de tempête dont on ne savait pas, comment la gérer, on ne savait pas comment s'en sortir, et le malheur veut que l'on affronte ce moment déterminant, ce moment charnière, avec une équipe au pouvoir qui est à la fois très extrémiste et très incompétente, c'est des gens qui sont incapables d'imaginer le début d'une solution, à la fois parce qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas dans leur idéologie, mais aussi parce que même s'ils voulaient, ils ne sauraient pas comment s'y prendre. Et donc, on est démunis, un pays puissant, à la pointe du progrès, avec l'une des armées les plus puissantes au monde, certainement la plus puissante dans la région, et qui est complètement désemparé, qui ne sait pas que faire, et un facteur aggravant dont le contrat social est mis à mal. C'est-à-dire il y a au moins deux Israël maintenant, c'est ce que nous appelons nous en Israël, l'État d'Israël et l'État de Judée. C'est-à-dire, ce sont des populations qui n'ont plus rien à se dire, qui se regardent en chaîne de faïence, qui se détestent. Et nous sommes, en plus de tout ce qui nous arrive, et les deux sont évidemment liés, Nous sommes dans une situation de guerre civile latente qui menace à chaque fois de devenir une guerre civile chaude, une vraie guerre civile.
Comme on l'a vu d'ailleurs à la prison de Zdeteman, où les gens sont venus en disant « je vais le faire moi, je vais moi libérer les soldats ». Et pendant des années, on a dit « attention, il peut y avoir une révolte si les gens… c'est des gens qui se sont battus à Gaza pendant un an ». On a dit si on les laisse, si on leur propose une solution qui donne l'impression d'être une reddition, par exemple, ils ne le feront pas. Ils quitteront pas Gaza, ils refuseront les ordres. On l'a vu hier.
Il y en a qui disent qu'ils ne le feront pas, il y en a qui sont en train de le faire, avec un gouvernement dont la composante principale est d'accord avec cela, l'encourage, et une opinion extrêmement divisé, c'est-à-dire c'est là, et c'est là que l'on voit comment le contrat social se défait, c'est-à-dire comment le contrat social, qui ne tient que par la loi, ça, nous le savons tous, est en train de se défaire parce que la loi n'est pas respectée, parce que tout le monde n'est pas d'accord, non pas avec chaque loi, cela est normal, mais avec les lois qui font le substrat commun. D'une vie en commun. Et ça, c'est effrayant quand on se dit la principale faiblesse d'Israël, ce n'est pas nos voisins, ce n'est pas les Palestiniens, c'est l'interne. Et pour les Juifs que nous sommes, cela évoque des souvenirs très anciens et très présents en même temps. Vous savez, nous autres Israéliens, nous parlons des événements d'il y a 2000 ans comme si c'était passé hier. C'est-à-dire nous savons qu'à deux reprises, l'État souverain des Juifs a été enseveli, a été détruit, et que c'est l'intérieur qui a cédé. C'était la guerre civile, la chute du deuxième temple. En 70 de notre commune, nos sources disent qu'elle était due à la haine gratuite entre les Juifs. Enfin, cette haine n'était pas gratuite, mais elle était bien réelle. C'était une espèce d'incompréhension totale entre deux tronçons du peuple juif. Et les Romains n'ont plus qu'à ramasser le morceau. Et nous en sommes là. C'est-à-dire, nous sommes devant une situation où ce qui fait que nous existons comme nation, et chaque jour remise en cause, et chaque événement le montre davantage. Alors, à force de tirer sur cette corde-là, elle finira par casser. On a eu pendant 10 mois avant le 7 octobre, on a eu cette tentative de coup d'État judiciaire, on a eu des manifestations sans exemple, sans précédent au monde, par le nombre relatif à la population, et par leur intensité et par leur durée. Et ça, évidemment, ça affaiblit le pays. Nos ennemis étaient attentifs, ils ont regardé cela. L'équipe au pouvoir, Netanyahou et ses amis, étaient déterminés à casser la démocratie israélienne, à changer le régime. Les Israéliens n'ont pas voulu de cela. Et il y a déjà eu, pendant un long moment, un affrontement d'une extrême dureté, sans excès de violence physique, mais on était sans arrêt au bord de la violence physique. Et maintenant, là-dessus est la guerre, et on se demande comment tout ça va se terminer.
Alors voilà, donc vous voyez, en nous expliquant les choses, vous passez d'un problème à l'autre, et donc c'est ça la tempête parfaite, mais à Dieu ne plaise qu'elle soit vraiment parfaite. Et il y a deux solutions aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis. La première, c'est que donc on n'arrive pas à maîtriser le Hamas, c'est surtout le Hezbollah qu'on n'arrive pas à maîtriser. On n'arrive pas à maîtriser le Hezbollah, les Iraniens sont déterminés à lancer, c'est une hypothèse, hein, c'est vous qui allez me répondre. Les Iraniens sont déterminés à généraliser le conflit, ça marche. Et ils ont tout ce qu'ils ont mis en place, c'est toujours la logique de ce que vous décrivez. Ça fait des années qu'ils mettent en place les milices en Irak et en Syrie, les outils sont derrière, etc. Et on n'arrive pas à tenir ça. Ça, c'est le premier scénario. c'est le scénario catastrophe. Et on n'y arrive pas. On peut détruire le port de Haïfa en 3 jours. Ça, c'est un scénario d'ailleurs qu'on lit hein, dans les journaux. Il existe, ce scénario-là. Le Hamas redresse la tête, etc. Ça, c'est le premier point. Mais il y a le deuxième. Et il est tout aussi... Il est peut-être même plus crédible que ce que je viens de dire. Finalement, Netanyahou est en train de décimer le Hamas, qu'on le veuille ou pas. Il reste 2 brigades, paraît-il, au Hamas. Salama, lorsqu'il a été tué avec Mohamed Diff, il y en avait 3, il est mort, il ne reste plus que 2. Rafah, ça devait être impossible à faire, ben, c'est les Israéliens qui sont là-bas. Et Aguerri, le porte-parole de Tzahal, a dit il y a moins d'une semaine, la brigade Hamas Rafah, hein, c'est, faut savoir ce que ça veut dire pour Rafah, Khan Younes, c'est comme si nous on dit il n'y a plus de Golani. Plus. Ils sont décimés. Allez, sur les 10 premiers, il n'y a plus de cadre intermédiaire. Bref, je ne vais pas faire. Je veux dire, je ne vais pas donner des détails comme ça. Le Hamas, finalement, et le Hezbollah, je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement envie de la guerre qu'ils nous proposent tous les 2 jours. Finalement, Netanyahou, il peut aussi, dans un an, se dire j'ai réussi mon pari. Hein.
Il ne peut pas. Il pourrait, mais il ne peut pas. Parce que tout ce que vous avez dit est vrai. Israël reste une énorme puissance militaire. Le Hamas et même le Hezbollah, militairement, ne font pas le poids. Ils peuvent infliger des souffrances, mais ils ne peuvent pas menacer l'existence d'Israël. Ils ne peuvent pas vaincre cette guerre. Le problème n'est pas là. Seulement, nous sommes en train de perdre la guerre, pas parce que nous ne battons pas le Hamas. Vous avez raison. Nous avons infligé au Hamas des coups terribles et le Hamas, en tant qu'organisation militaire, en tant qu'armée organisée, avec hiérarchie formelle, ce qu'ils étaient devenus, n'existe plus. Mais, comme dans toute guerre, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire après, vous êtes incapable de la gagner. Vous savez, je ne vous apprends rien, c'est le mot immortel de Clausewitz, la guerre. Et que la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais si vous ne voulez pas faire de politique, vous n'arriverez jamais à vaincre le Hamas. Le Hamas, c'est une armée. Celle-là est en train de disparaître, d'être battue dans ses structures opérationnelles. C'est aussi un gouvernement. Il n'est plus opérationnel. Mais chaque fois que l'armée nettoie un secteur, le Hamas réparait. Et à ce moment-là, c'est le Hamas ancien mode, c'est-à-dire ce sont des escouades, des groupes de terroristes qui refont surface. Ils recrutent de nouveau, parce que ça ne manque pas, c'est des jeunes désespérés qui ont vu leur famille se faire massacrer, qui n'ont aucun espoir, et qui là au moins, ils ont un cadre, un salaire et quelque chose à manger. Et donc, par milliers, le Hamas recrute des hommes. C'est-à-dire, c'est imbattable, c'est imparable. Tant qu'il n'y a pas, à la place du Hamas, une structure étatique organisée capable de gérer ce territoire. Or, cette structure étatique, ça ne peut être que l'OLP, enfin le Fatah, l'autorité palestinienne, appelez là qu'on voudrait, soutenue par l'organisation internationale, soutenu par l'Europe, par les Américains, par les États arabes de la région, c'est-à-dire une solution de remplacement du Hamas, mais dont la logique est la prise en main du territoire par l'autorité palestinienne. Or, c'est exactement ce dont Netanyahou ne veut pas, parce que ça veut dire qu'au bout, on a un État palestinien. Et toute sa stratégie était basée sur la séparation entre ces deux tronçons, entre Ramallah et Gaza, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, de manière à empêcher toute velléité de créer un État palestinien. C'était ça la stratégie. C'est pour ça qu'on a permis au Hamas de se renforcer, qu'on lui a fourni des dizaines de millions de dollars, qu'on lui a permis de renflouer ses arsenaux, alors qu'on le savait, on savait ce qu'il faisait. Et Netanyahou l'a dit publiquement à plusieurs reprises, il faut payer le Hamas si on ne veut pas avoir les autres. Et donc, il y aurait, nous sommes, c'est une situation très étrange, je voudrais vraiment insister là-dessus. Dans ce moment, qui est le moment de tous les périls, dans l'œil du cyclone, pour filer cette métaphore, il y a deux moyens d'en finir. L'un, c'est dans le malheur. On est emporté, on ne sait pas comment, mais c'est une catastrophe majeure. L'autre, c'est la sortie par le haut. C'est possible. Vous parliez du Hezbollah. Le Hezbollah, Nasrallah a dit plusieurs fois, le jour où où Gaza s'arrête, nous on arrête. Nous on arrête. À ce moment-là, on peut imaginer, puisque les Français, les Américains s'activent beaucoup, on peut imaginer une solution diplomatique, puisque il n'y a rien qui nous oppose aux Libanais, en fait, sauf quelques points de frontière qui n'ont aucune importance. C'est le long de ce qu'on appelle la ligne bleue, c'est faisable. Les Iraniens n'ont aucun intérêt à faire la guerre à Israël, une guerre ouverte. Et donc les Houthis n'existent que parce que l'Iran les soutient. Je ne dis pas que l'arrêt de la guerre à Gaza va transformer la région en une espèce d'Union européenne. Non, ce n'est pas ça qui va se passer. Mais ça va brusquement, brutalement calmer la situation et permettre des ouvertures, permettre une sortie par le haut de ces situations.
De cette terrible tempête.
Le dilemme, c'est là le carrefour, si vous voulez. C'est évident pour tout le monde. C'est ou la voie Biden ou la voie Netanyahu. Et ça va se régler très rapidement. Nous saurons assez rapidement à quelle sauce nous serons mangés.
Élie Barnavi, merci pour... on a dépassé le cadre de l'interview, là. Merci pour ces explications et cet éclaircissement. Dieu sait qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de lumière en ce moment. Je pense que cet article que je viens de citer, qui est en deux parties, qui s'appelle « Perfect Storm », la tempête parfaite, est disponible sur le site Telos. Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Vous qui avez été, mais bon, ai-je besoin sur Radio Shalom, Élie, franchement, ai-je besoin sur Radio Shalom de vous présenter, vous qui avez été ambassadeur ici à Paris pendant des années et dont les livres sont dans toutes nos bibliothèques. Merci à vous, Élie Barnavi. Bonsoir.
Merci à vous, Ben. Et au revoir.